parmi nous, Thierry et Raymond. Tous les deux, ils sont un couple pastoral à l'église de Toulouse de notre fédération. C'est la chapelle, c'est ça? L'église La Chapelle. Et je suis extrêmement heureux parce que bon, Thierry, au fur et à mesure, est devenu un ami. Et ce week-end, il est venu pour nous donner une formation tous les deux. Et j'ai le plaisir de l'inviter à venir et à partager la parole avec nous ce matin. Voilà, Thierry.
Merci pour cette invitation. C'est l'invitation de vous tous aussi, puisque je viens dans une communauté chrétienne, dans une église, et je suis reçu par l'ensemble des membres de cette communauté. Nous sommes baptistes, alors avant d'être baptistes, nous sommes chrétiens, bien évidemment, mais qu'est-ce que ça veut dire être baptiste? C'est simplement croire que chaque chrétien, étant un enfant de Dieu, a l'Esprit de Dieu en lui, l'onction est en vous, elle demeure en vous, elle vous enseigne toutes choses. C'est Jean qui dit ça dans la première épître. Et c'est donc croire que l'Église est composée de toutes celles et ceux qui sont rachetés par grâce, adoptés par le Seigneur. L'Église n'est pas simplement composée d'anciens, d'un pasteur ou d'un clergé, et puis après il y aurait des membres, mais l'Église, c'est ça, être baptiste, c'est croire que, c'est ce qu'on appelle le congrégationalisme, c'est croire que ce sont celles et ceux que le Seigneur a rachetés qui ont l'Esprit de Dieu, qui sont l'Église au sens plénier du terme, au sens fort du terme, c'est-à-dire que chacun a sa responsabilité pour l'avancement de l'œuvre de Dieu et de son Église. Donc c'est pas une anodin, c'est pas une futilité cette compréhension de l'Église. Ceci dit, Dieu a donné des dons aux uns et aux autres. Il a fait des pasteurs, apôtres, prophètes, évangélistes, enseignants. Et bien sûr, cela n'enlève rien à la diversité des appels, des dons et des vocations. Mais nous sommes tous appelés, bien sûr, à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Alors, ce matin, je vous invite à lire deux textes. Si vous avez vos Bibles, vous pouvez donc aller dans l'épître de Jacques, chapitre 4, verset 1 à 10. Jacques, chapitre 4, verset 1 à 10. Et nous lirons un deuxième texte dans la première épître de Pierre. Mais d'abord, Jacques, chapitre 4, verset 1 à 10. C'est bien, je vois qu'il y a... c'est pour la température spirituelle de la salle. Alors, Jacques, chapitre 4, verset 1 à 10. D'où viennent les conflits? D'où viennent les querelles parmi vous, sinon de vos plaisirs qui combattent dans votre corps tout entier? Vous désirez et vous ne possédez pas. Remplis de passions jalouses, vous assassinez et vous ne pouvez rien obtenir. Vous multipliez les querelles et les conflits, mais vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Si vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal afin de pouvoir dépenser pour vos plaisirs. Adultère, ne savez-vous pas que l'amour du monde est hostilité à l'égard de Dieu ? Celui qui est décidé à être ami du monde sera donc ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain lorsqu'elle dit « Il désire jusqu'à l'envie l'Esprit qu'il a fait habiter en vous ?» Mais la grâce qu'il accorde est supérieure, puisqu'elle dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, opposez-vous au diable et il vous fuira. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Purifiez vos mains, pécheurs, et nettoyez votre cœur, âme partagée. Reconnaissez votre misère, menez deuil, pleurez. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Abaissez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Et puis, un deuxième texte, dans la première épître de Pierre, au chapitre 5, versets 5 à 11. Première épître de Pierre, chapitre 5, versets 5 à 11. De même, jeunes gens, soyez soumis aux anciens. Tous, revêtez-vous de l'humilité dans vos rapports mutuels, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux humbles. Abaissez-vous donc sous la main puissante de Dieu pour qu'il vous élève en temps voulu. Déchargez-vous sur lui de toutes vos inquiétudes, car il prend soin de vous. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Opposez-vous à lui, ferme dans la foi, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Quand vous aurez souffert un peu de temps, le Dieu de toute grâce, qui en Jésus-Christ vous a appelé à sa gloire éternelle, vous formera lui-même, il vous affermira, il vous rendra fort et inébranlable. À lui le pouvoir pour toujours. Amen. Voilà, jusque-là, la lecture des Écritures, de la parole de Dieu. Ce sont des paroles qui nous interpellent. Des paroles fortes qui, ne prennent pas beaucoup de détours et qui vont droit au cœur, qui révèlent le cœur de l'homme de façon très très réaliste. Je vais vous parler au travers de ces textes d'un point important dans la vie chrétienne qui est celui de cette attitude à laquelle le Seigneur nous encourage dans ces textes, qui est la résistance. Résistance. Vous avez vu dans ces textes qu'il est dit de tenir bon, de résister au diable, de s'opposer à lui, de tenir ferme, d'être sobre. Il est parlé de souffrance. Et donc nous allons parler de quelque chose d'un comportement chrétien auquel le Seigneur nous encourage, qui est donc la résistance. Et pour introduire ce thème-là, je voudrais vous parler d'un homme qui s'appelle Sébastien Hafner, qui était un jeune magistrat allemand qui, dans les années 20, dans les années 30 en Allemagne, a vu de ses yeux et a expérimenté la montée du nazisme. Sans rien pouvoir faire, apparemment. Et on a retrouvé à sa mort, il est mort en 1999, dans ses papiers, dans son bureau, on a retrouvé le récit de ces années-là, un récit autobiographique où il raconte bien sûr sa vie et ce qu'il voyait à ce moment-là. Et il dit ceci dans ses papiers: vivant la même apathie que des millions d'autres individus, je laissais venir les choses. Elles vinrent. Je laissais venir les choses. Elles vinrent. Elles arrivèrent. On a retrouvé ces papiers, donc les éditions Actes Sud ont d'ailleurs publié ces mémoires en 2004. Qu'aurait-il fallu faire ? Résister. Certains l'ont fait. Certains ont résisté. D'autres, la grande majorité, se sont laissés porter par le mouvement, par l'ambiance, par l'époque. Ce texte, ces deux textes que nous avons lus nous parlent du diable comme un lion qui rugit, nous parlent d'attrait, de convoitise, à la fois donc des sollicitations extérieures, mais aussi des sollicitations intérieures qui viennent du plus profond de notre être, que la Bible appelle la chair communément, l'homme irrégénéré, qui refuse de se soumettre à l'Esprit de Dieu et à sa parole. Reconnaissons que tout chrétien ressent ces choses-là et dans ce combat. Donc il n'y a pas de personne plus ou moins forte qui serait exemptée, de chrétien qui serait exempté de ces combats-là. La première réaction est donc de faire une analyse réaliste. Oui, nous sommes dans un combat, combat contre des sollicitations extérieures, combat contre notre chair, Paul en parle, la chair et l'esprit ont des désirs contraires. C'est normal, je dirais. Ce qui est moins normal pour le chrétien, c'est bien sûr de se laisser aller et de ne pas résister. Nous sommes tous des veilleurs, dans le sens que nous sommes appelés à être des sentinelles. Nous devons donc être attentifs aux signes, pas simplement aux signes d'État, mais aussi à ce qui se passe dans nos vies, aux sollicitations extérieures. Sont-elles bonnes ou mauvaises ? Vont-elles nous conduire à pécher, à nous égarer loin de Dieu ? Nous devons veiller, nous sommes tous des veilleurs. Nous ne pouvons donc nous confier aux autres pour dire « veillez sur nous, veille sur moi ». D'abord, c'est nous qui devons veiller, nous sommes tous des veilleurs. Tout à l'heure, je parlais du congrégationalisme, c'est-à-dire cette pensée qui biblique, qui nous dit que chacun, nous sommes aptes à œuvrer pour le Seigneur et nous avons une responsabilité. Nous sommes tous des veilleurs. Dans l'Ancien Testament, Dieu a envoyé des prophètes. Ces prophètes étaient là pour éclairer le peuple de Dieu, pour lui donner une lumière sur la situation par laquelle il traversait, à laquelle il devait faire front. La parole de ces prophètes, donc, devait éclairer d'une lumière nouvelle les événements dramatiques par lesquels le peuple de Dieu était traversé. Le but était que le peuple d'Israël ouvre les yeux au sein des ténèbres dans lesquelles il était, qu'il sorte de son aveuglement spirituel pour que le peuple de Dieu soit ramené à la vérité, à l'obéissance de la parole. Dans la nouvelle alliance, l'Esprit de Dieu est répandu sur toute chair. Pas de distinction entre clergé et laïc. Le but, c'est de faire de son Église un peuple de prophètes. Nous sommes des prophètes. L'Esprit de Dieu est en nous. Nous parlons de la part de Dieu parce que son Esprit est en nous. Nous sommes des veilleurs, donc, des sentinelles, comme l'étaient les prophètes, postés sur la muraille pour veiller et avertir. D'abord, avertir nos propres vies avant d'avertir celles des autres. Tous, nous avons donc cette vocation, être des sentinelles. Et une sentinelle ne doit pas s'endormir. Si elle veut pouvoir guetter le mal qui s'approche, elle doit rester éveillée. Et c'est vrai que plus l'obscurité s'épaissit, plus le sommeil nous guette, plus l'obscurité de la nuit nous entoure, et plus on a cette impression de se sentir seul, parce qu'on ne voit pas les autres. L'obscurité étant telle que on croit qu'on est seul, en fait on ne l'est pas, mais c'est l'obscurité qui nous entoure. Et donc plus la tentation est grande, d'abandonner notre poste de guetteur, de lanceur d'alerte. Plus de sentinelles abandonnent leur poste et plus on se dit, mais est-ce que je suis réellement à mon poste? Est-ce que je vis pas une hallucination? Est-ce que je rêve pas? Est-ce qu'il est toujours légitime de rester à ce poste? Oui. L'Écriture nous dit de résister au diable. Vous connaissez la chanson de Michel Berger, chantée par France Gall, « Résiste ». Prouve que tu existes. Refuse ce monde égoïste. Suis ton cœur qui insiste. Ce monde n'est pas le tien. Viens, bats-toi, signe et persiste. Oui, le texte nous dit que Dieu a fait résider dans nos cœurs son esprit, l'esprit qu'il a fait habiter en nous. On a lu ce texte-là tout à l'heure, dans Jacques, au verset 4 et 5. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain lorsqu'il dit, Dieu donc désire jusqu'à l'envie l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Autrement dit, tous, nous avons son esprit. Cet esprit qui nous donne la force de résister, la lucidité de percer au travers des ténèbres la réalité des enjeux et de ce qui nous entoure. Et ne pas nous assoupir, cet esprit qui nous permet de ne pas nous assoupir dans l'obscurité du péché, dans l'obscurité de la confusion, dans l'obscurité de la convoitise de ce monde. Deuxième chose, donc, nous sommes tous des veilleurs. Deuxième chose, ces textes que nous avons lus nous montrent ce que j'appelle la radicalité éthique. Soit on est ami du monde, et dans ce cas-là, si l'on est ami du monde, on est ennemi de Dieu. Soit on est ami de Dieu, et donc on est dans l'opposition. Au sens strict du terme, on est dans une opposition par rapport au monde. Être ami du monde, on l'a lu tout à l'heure dans ces textes, c'est en fait être ennemi de Dieu. Alors bien sûr, ces propos sont là pour nous montrer réellement les enjeux, pour nous montrer réellement qu'on ne peut pas tergiverser, on ne peut pas être dans la compromission quand on est chrétien, on ne peut pas penser qu'on peut être dans les deux camps. Il y a réellement un enjeu. Il y a réellement un combat. Amis du monde. Et les auteurs utilisent la métaphore, l'image de la relation conjugale, adultère que vous êtes, pour ceux qui seraient amis du monde et qui penseraient qu'ils pourraient toujours rester mariés en quelque sorte. C'est l'image des épousailles spirituelles, mariés à Dieu. On ne peut pas servir de maître aussi, Jésus l'a dit aussi. Vous trouverez ça partout dans les évangiles, cette radicalité éthique qui s'inscrit dans un comportement clair, sans compromission. Sans compromission, ça ne veut pas dire qu'on est des fanatiques. C'est pas ça. Ça veut dire qu'on a conscience qu'on est des sentinelles, qu'il y a un enjeu et que parfois nous serons amenés à avoir une parole qui n'ira pas forcément dans le sens de la majorité. Et qu'on sera dans une opposition frontale, peut-être. Une position qui sera difficile à tenir, mais néanmoins une opposition à laquelle le Seigneur nous appellera. Une radicalité éthique. Nous devons donc résister à l'amour du monde, à toutes ses tentations, à toutes ses illusions. Parce qu'il y a une incompatibilité entre ces deux amours, entre l'amour du monde et l'amour que nous devons avoir pour le Seigneur. Au point que le chrétien peut être qualifié d'adultère s'il partage son amour entre Dieu et le monde. S'il le partage, c'est-à-dire si son cœur est partagé, s'il ne se décide pas vraiment pour le Seigneur. Mais c'est une attitude qui est un chemin. Chaque jour, nous devons décider, dès que nous posons le pied, quand nous nous levons, nous savons que nous appartenons au Seigneur. Et donc, nous devons décider de manifester cette appartenance en marchant de façon vraie, obéissante, authentique avec le Seigneur. d'où viennent les conflits, hein, nous avons lu tout à l'heure, les querelles, sinon de vos plaisirs qui combattent dans votre corps tout entier. Adultère, ne savez-vous pas que l'amour du monde est hostilité à l'égard de Dieu ? Celui qui a décidé à être ami du monde se rend donc ennemi de Dieu. Que devons-nous englober dans cet amour du monde ? Qu'est-ce que veut dire Jacques et Pierre dans ce texte-là quand il est parlé d'aimer le monde ? À mon avis, une part majeure de cet amour du monde est contenue dans l'amour et l'intérêt qu'aujourd'hui nos contemporains portent à leur propre personne. L'intérêt quasi exclusif que l'homme d'aujourd'hui porte à sa personne. À ce titre, il y a incompatibilité entre l'amour de soi et l'amour pour Dieu. Irrésistiblement, à cause du péché, l'amour de soi nous entraîne à nous éloigner du véritable amour que nous devons porter à Dieu, à son Fils, à son œuvre, et en définitive, à l'être humain lui-même. Saint Augustin a dit « deux amours ont fait deux cités. L'amour de soi jusqu'au mépris de Dieu a fait la cité des hommes, et l'amour de Dieu jusqu'au mépris de soi a fait l'autre cité. L'une demande sa gloire aux hommes, pour l'autre, Dieu témoigne de sa conscience et sa plus grande gloire. L'une dans sa gloire dresse la tête, l'autre dit à son Dieu, tu es ma gloire et tu élèves ma tête. L'une dans ses chefs ou dans les nations qu'elle subjugue est dominée par la passion de dominer, dans l'autre, la cité de Dieu, on se rend mutuellement service par charité. L'une en ses maîtres aime sa propre force, l'autre dit à son Dieu, je t'aimerai Seigneur, tu es ma force. Le plus étonnant, c'est que parfois, même dans l'Église, on a fait l'apologie de l'amour de soi. En réalité, il n'y a aucun passage dans la Bible qui nous demande de nous aimer nous-mêmes. C'est plutôt l'inverse. Tous les textes nous recommandent de nous tourner vers les autres et de leur porter notre intérêt, notre amour. Regardez le sermon sur la montagne, Matthieu 5, 6, 7. D'ailleurs, le premier commandement, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton âme, de toute ta force et ton prochain comme toi-même. Alors, pour justifier l'amour de soi, souvent on a dit, oui, tu aimeras ton prochain comme toi-même, donc il faut bien s'aimer. En réalité, ce texte dit exactement l'inverse. S'aimer comme soi-même, dans la pensée biblique, implique un détournement de soi. Non pas, bien sûr, un rejet de soi, il n'est pas question de se mépriser, comprenons-nous bien, mais le détournement de l'intérêt de soi pour le porter vers l'autre. Ce qu'on appelle le désintéressement de soi, l'agapé biblique. Cet agapé biblique, cet amour du Christ pour le monde, doit être mis en parallèle avec ce texte de Philippiens 2 où il est dit « Ayez les dispositions qui étaient en Jésus-Christ, lui qui, dans sa gloire, n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même. » C'est-à-dire que volontairement, il a décidé de venir, de s'abaisser en quelque sorte, de revêtir cette nature humaine pour mourir pour nous. Et Paul dit « Ayez les dispositions de cœur qui étaient en Jésus. » Ayez cette attitude-là. Donc, comme toi-même, on peut l'assimiler à la règle d'or. Vous savez, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, dans Matthieu 7, 12. Le « comme toi-même »,« comme » se rapporte au verbe « aimer » et non au « toi-même ». Il indique donc plutôt la manière dont il faut aimer. Il ne faut pas lire ce passage comme si Jésus nous disait « aime-toi d'abord toi-même, alors tu pourras aimer les autres. » Même si cette idée est plausible, même si effectivement on a du mal à penser que quelqu'un qui se mépriserait de façon absolue puisse porter un amour quel qu'il soit aux autres. Mais le texte ne dit pas ça. Cet amour, s'aimer, aimer son prochain comme soi-même signifie tu aimeras ton prochain au moins autant que toi. Tu l'aimeras de la façon dont tu souhaiterais que l'on t'aime. Tu lui porteras l'intérêt que tu aimerais qu'on te porte à toi, l'attention que tu aimerais recevoir des autres, porte-le aux autres. Alors, vu l'intérêt que très naturellement nous portons à notre personne, ce détournement de soi ne va pas de soi. Il semble évident que l'égoïsme et l'amour-propre sont très largement répandus dans ce monde. Alors, aimer son prochain comme soi-même ne va pas de soi. Et je comprends que la thèse de l'amour de soi est tant de prestige. En réalité, Christ a fait l'inverse. Il s'est dépouillé lui-même en prenant chair. Et l'incarnation nous parle de ça. En réalité, il n'est pas nécessaire de chercher des passages sur l'amour de soi. Nous pouvons nous aimer, bien sûr, tout simplement, parce que Dieu nous a aimés, parce que nous avons été créés à son image. Et rien que cette pensée, eh bien, doit nous porter à nous accepter comme nous sommes et nous aimer dans ce sens-là sous le regard de Dieu. Et puis, en tant que chrétien, bien sûr, nous pouvons nous aimer parce que Dieu a prouvé son amour, on l'a chanté tout à l'heure, en manifestant cet amour par le don de son Fils, cette grâce. De ce fait, notre amour pour ce que nous sommes est réorienté par rapport à celui qui nous a donné son amour. En tant que chrétiens, si nous pouvons nous aimer, c'est avant tout parce que nous nous plaçons sous le regard de Dieu, du Dieu de la grâce, mais en aucun cas parce que nous poserions l'amour de soi comme un principe, indépendamment de celui qui nous aime, et encore au moins comme une priorité. Le texte que nous avons lu dit ceci au verset 6 de Jacques 4, « Mais la grâce qu'il accorde est supérieure, puisqu'elle dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux humbles. » Vous voyez que Dieu lui-même résiste. Il résiste aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux humbles. Soumettez-vous à Dieu. Il me semble difficile donc de nous abaisser devant Dieu, de nous soumettre à Dieu, si l'on fait passer l'amour de soi avant le sien, c'est-à-dire avant celui qu'il nous porte et celui que nous lui rendons en réponse. Le texte parle d'adultère, encore une fois, pour bien montrer qu'il n'y a pas de compromission possible. On ne peut pas marcher sur ces deux chemins. Que recherche un adultère ? Son propre plaisir. Je suppose, pas celui de son épouse. Il aime une autre femme parce qu'il fait passer son intérêt, son plaisir, avant celui de sa femme. Or, l'Écriture nous dit que l'Église est son épouse. Nous sommes l'épouse du Christ. Nous sommes l'épouse du Christ. Christ est notre époux. La troisième chose que je voudrais dire, c'est que nous avons une responsabilité personnelle. Résister va de pair avec une prise de conscience d'une responsabilité personnelle. Je ne peux pas me justifier ou me rassurer en pensant que les autres le feront. Je ne peux pas me dédouaner de mes responsabilités en pensant de toute façon, personne ne bouge, ne dit rien, alors pourquoi devrais-je moi-même me croire responsable ? Alors ça, c'est l'influence de la majorité, hein, qui ça joue beaucoup, ça. Hein. Et des sociologues ont fait une expérience, ils ont placé une personne dans un groupe où il y avait 7 personnes, et ces 7 personnes étaient complices, c'est-à-dire elles savaient ce qu'elles devaient répondre. On leur montrait des figures, et il était évident que dans ces figures, il y en avait une qui ne correspondait pas à l'ensemble des figures. C'était vraiment énorme. Et on disait à ces 7 personnes qui étaient complices, vous n'allez pas dire la vérité. Vous allez dire vraiment une mauvaise réponse, alors que c'était évident. On fait venir la 8e personne qui est au courant de rien, et on lui dit, toi, qu'est-ce que tu penses ? Dans un tiers, écoutez bien, dans un tiers des cas, c'est-à-dire entre 30 et 40% des personnes interrogées allaient dans le sens de la mauvaise réponse. Vous voyez l'influence du groupe. Un tiers, c'est énorme quand même. Hein, alors que le truc, c'est gros, c'est énorme. C'est un peu comme si on vous disait 2 et 2, ça fait 5. Mais les 7 disaient oui, ça fait 5. Un tiers des personnes disaient oui. Si dans ces 7 personnes, on disait à l'un des 7, les 7 complices, tu vas dire, toi, tu vas résister aux 7 et tu vas dire la bonne réponse. Le pourcentage des personnes interrogées tombe à 5%. C'est-à-dire que la huitième personne, hein, dans ces cas-là, elle va aller, il y en aura beaucoup moins en tout cas qui iront, il n'y aura que 5% des personnes qui iront, qui donneront la mauvaise réponse. Donc on voit, ces expériences-là montrent réellement comment on est constitué finalement. Et je ne crois pas que nous échappions totalement à ces choses-là, contrairement à ce que nous pensons. C'est pour ça que l'idée de résister est quand même fondamentale quand on est chrétien. Je pense qu'effectivement, il y a là un enjeu important et on ne peut pas donc se dédouaner de nos responsabilités. Nous devons donc résister à toute forme de pression, d'autant plus quand cette pression elle est le fruit d'une majorité de personnes. Et souvent, on entend aux informations, la majorité des Français pensent que, la majorité des Français disent que. En fait, on ne sait trop rien si c'est la majorité. Si cette majorité, c'est 54%, bon, on peut se poser des questions d'une majorité à 54%. Mais même parfois, on ne donne même pas des chiffres. On dit la majorité, un peu comme pour influencer. On n'en sait rien, en fait, quoi. Et puis, il se peut que dans ceux qui ont, dans ces 54% ou plus, même, peu importe, il y en ait qui aient dit oui pour faire plaisir, quoi. Puis, ça dépend comment la question a été posée, vous voyez. Donc, la majorité des Français. Enfin, il y a comme une façon de dire, voilà, puisque la majorité des Français, ça sonne un peu comme si tout le monde pensait ça. Voilà. La majorité des pensées, ça veut dire tout le monde pense ça. C'est un peu comme pour dire, voilà, ben vous devez quand même penser ça vous aussi, quoi. Puisque la majorité des Français pensent ça ou disent ça. Bon, peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est pas vrai. Ouais, mais ça me renvoie à ma question, moi. Qu'est-ce que moi je pense? Qu'est-ce que moi je dois faire? Nous sommes donc responsables. Nous ne pouvons pas porter notre responsabilité sur le dos des autres. Alors, ce qui semble tomber sous le sens, c'est que nous sommes responsables de ce que nous faisons. Sommes-nous responsables de ce que nous ne faisons pas ou de ce que nous ne disons pas? Je pense que dans certains cas, oui. Pas toujours. Parce que parfois, on n'est pas obligé toujours de parler ou toujours de faire. Parfois, la prudence nous enseigne qu'il faut se taire ou que ce n'est pas le moment. Mais parfois, nous sommes responsables de ce que nous ne disons pas ou de ce que nous ne faisons pas. C'est ce que je disais tout à l'heure en introduction de cet homme. Il disait qu'il était dans cette apathie générale en attendant. Hein, c'est ce qu'il dit, je crois, les mots qu'il utilise. Hein. Je laissais venir les choses vinrent. Eh oui. Donc, parfois, il faut dire les choses, les dire avec amour, bien sûr. Il y a des situations où nous devons nous taire, soit nous devons être prudents. Reconnaissons aussi que parfois, par contre, l'ennemi veut nous bâillonner. Et là, il faut parler. Exprimez-vous. Et souvent, on voit des pancartes, exprimez-vous. Voilà, soyons les gilets jaunes de la chrétienté. Oui, il faut s'exprimer, il faut parler avec amour. Mais parfois, il faut dire les choses, n'ayons pas peur. À ce titre-là, je voudrais donner une autre illustration. Je ne sais pas si certains sont dans le monde de l'édition ou pas ici, mais il y a en ce moment une polémique sur un livre qui est sorti de Vanessa Springora, qui est directrice des éditions de Julliard, je crois, qui a été abusé par un certain Gabriel Masneff, qui a 83 ans aujourd'hui, qui a publié chez Gallimard, qui a été 6 fois invité par Monsieur Pivot apostrophe, pédophile avéré, qui le écrit dans ses journaux lui-même en 90. Si vous allez sur YouTube, vous verrez, vous tapez l'émission apostrophe, interviewé devant un parterre, l'intelligentsia parisienne, il est là, et puis tout le monde rigole de ses affaires et de son livre et tout ça. Un monsieur qui sodomise des filles de 14 ans. Personne ne dit rien. Tout le monde rigole dans l'émission. Tout le monde. Et puis, à un moment donné, Denise Bombardier, qui est une écrivaine canadienne, on voit qu'elle a un rictus, elle commence à en avoir un peu marre de tout ça. Elle parle. Elle parle. Et elle dit, Monsieur Masnev, vous êtes un homme pitoyable. Vous êtes un homme pitoyable. On sait que les vieux monsieur attirent les petites filles avec des bonbons. Vous, vous les attirez avec votre réputation d'écrivain. Et là, vous verrez l'ambiance un peu dans l'émission. Pouf, tout d'un coup, ça change tout. Une personne a parlé. Une personne a osé parler. On ressort ces images d'archives aujourd'hui et les gens disent, mais comment on a pu laisser cet homme-là parler, faire tout ce qu'il a dit et tout ça. Les gens se réveillent maintenant. Parce que depuis, évidemment, on a donné la parole aux victimes, hein, aux enfants, et que la pédophilie, qui était finalement, c'est ça qui est incroyable, plus ou moins tolérée, il y avait une complaisance incroyable. Eh bien, aujourd'hui, on réagit, mais peut-être un peu tard. Mais voyez, cette dame, c'est tout à son honneur, est intervenue à ce moment-là. Elle a osé parler, elle s'est exprimée. Bien sûr, c'est très fort, hein, là. Mais je pense que parfois, nous avons loupé, et il se peut que nous ayons parfois loupé des occasions où nous aurions dû peut-être nous exprimer. Il n'est jamais trop tard pour le faire. Il n'est jamais trop tard. Toujours dans l'amour, évidemment. Toujours en argumentant. Toujours de façon pertinente. En priant. Mais il faut résister. Il faut renoncer parfois à la chair. Il faut dire « je renonce ». Il faut affirmer les choses avec amour. Il faut, frères et sœurs, il faut résister. Il faut résister au péché. Il faut résister au diable. Et il fuira loin de nous. Bien sûr, ça demande parfois du courage. Ça demande des prises de position. Mais il faut le faire. Ça demande peut-être une attitude de non-conformisme. Mais c'est une des caractéristiques du chrétien. Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu qui est bonne, agréable et parfaite. Ne vous conformez pas. Le non-conformisme est une caractéristique du christianisme. Pas pour le plaisir de faire l'original, le malin, l'artiste, ou de jouer la carte de la singularité. Mais parce qu'il faut à ce moment-là s'opposer, parce que nous sommes des veilleurs, nous sommes des prophètes, nous sommes des sentinelles, frères et sœurs. Nous sommes engagés dans un combat. Alors nous ne nous prenons pas, bien sûr, pour des ayatollahs évangéliques, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais il y a un enjeu spirituel. Il y a un enjeu spirituel, l'apôtre Paul le dit. Hein. C'est pas contre la chair et le sang que nous luttons. Mais contre les autorités dans les lieux célestes, les dominations dans les lieux célestes. Il y a des esprits qui influencent ce monde. Il y a des décisions iniques qui sont prises. Et nous devons nous élever contre cela avec amour. Il y a aussi, bien sûr, le péché qui nous enveloppe si facilement et qui veut nous séduire, comme le dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux au chapitre 12. Résistez avec une foi ferme. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang, hein, dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux dans ce texte. Mais voilà ce principe de non-conformisme. Agir avec foi, prendre une position claire et argumenter quand c'est nécessaire, quand nous discernons que dans telle ou telle situation, il y a incompatibilité entre l'amour du monde et l'amour pour le Seigneur. Quand Dieu et l'Évangile sont bafoués. Prenons la parole, ne nous laissons pas intimider. Soyons courageux. Comme le dit Pierre dans le texte que nous avons lu, soyez sobres, veillez. Veillez, voyez toujours cette image du guetteur, de la sentinelle, qui n'est pas endormi, qui n'est pas assoupi. Votre adversaire, le diable, rôde. Opposez-vous à lui, résistez-lui, soyez ferme. Alléluia, ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Quand vous aurez souffert un peu de temps, le Dieu de toute grâce, qui en Jésus-Christ vous a appelé à la gloire éternelle, eh bien vous fortifiera. Vous fortifiera, il vous affermira, il vous rendra fort et inébranlable. À lui le pouvoir pour toujours. Moi, je ne sais pas personnellement, si l'on me persécutait de façon physique, je ne peux pas dire aujourd'hui comment je réagirais. Je reconnais. Je ne suis pas meilleur que vous, hein. Je ne sais pas comment je réagirais. Mais je sais que je dois résister, je devrais résister, je ne devrais pas abandonner. Il faut que ce soit clair. Maintenant, nous devons être sûrs que nous résisterons si cela devait nous arriver. Nous devons être clairs sur ça. Nous devons être forts. Et pour cela, n'attendons pas que ces jours arrivent. Je ne dis pas qu'ils arriveront en France, j'en sais rien. Hein. Mais si ces jours arrivent, qu'allons-nous faire? Qu'allons-nous devenir? Qu'allons-nous dire? Quelle sera notre attitude? Nous devons nous préparer. Nous devons nous préparer. Nous devons être des guetteurs, des veilleurs. Et je voudrais conclure par ce texte de l'apôtre Paul qui nous parle de cette résistance au péché, résistance aux sollicitations extérieures, résistance à cette influence diffuse dans la société qui parfois est délétère et mauvaise pour nous, parfois je dis. Voilà ce que dit l'apôtre Paul. Au reste, soyez puissants. Puissants spirituellement, hein, dans la foi. Soyez puissants dans le Seigneur et par sa force souveraine. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir, donc c'est dans l'éventualité, hein, afin de pouvoir tenir bon devant les manœuvres du diable. Prenez donc toutes les armes de Dieu afin que vous puissiez résister dans les jours mauvais. Et après avoir tout mis en œuvre, alors vous pourrez tenir bon. Oui, tenez bon, dit l'apôtre Paul, saignez vos reins de vérité. C'est une expression, saigner ses reins, parce qu'à l'époque, hein, on avait des sortes d'habits, et quand la personne devait courir ou aller quelque part, il fallait qu'elle mette comme une ceinture ou qu'elle serre, parce que ce n'était pas commode, hein, ces habits qu'ils avaient pour courir. Saignez vos reins de vérité. Autrement dit, il faut vraiment que la vérité soit la vérité de Christ, la vérité de l'Évangile, la vérité de la parole de Dieu, soit vraiment, nous habite, hein, nous habille, littéralement, nous revêtent pour que nous puissions marcher dans la vérité et proclamer partout l'évangile de vérité et résister ainsi aux manœuvres du diable. Amen. Je vous invite à la prière. Seigneur, nous voulons te bénir pour ta parole. Elle est puissante pour renverser les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et c'est par elle et avec ta grâce que nous pouvons ainsi, Seigneur, dénoncer les manœuvres de l'ennemi, les manœuvres du diable et marcher dans la vérité. Seigneur, je te bénis pour ta parole, Seigneur. Elle est cette épée à double tranchant qui nous permet de discerner. Non pas de nous faire justice, elle n'est pas une arme pour faire mal ou nous faire justice, mais elle est là, cette parole à double, qui est une épée à double tranchant pour discerner l'erreur et ainsi séparer le bon grain de l'ivraie. Merci Seigneur parce que c'est toi qui le fais par ta parole Seigneur. Nous ne sommes pas des propres justes. Mais, Seigneur, nous sommes des hommes et des femmes responsables de la façon dont nous restituons ta parole, dont nous la disons, dont nous en témoignons. Nous sommes responsables, Seigneur. Et nous voulons, Seigneur, te prier vraiment pour que tu nous aides, Seigneur, à, par ta grâce, à marcher dans cette vérité chaque jour, Seigneur. Oh, merci Père, merci vraiment pour cette grâce. Merci pour ta force, merci pour ta parole Seigneur. Merci pour ton esprit et je te prie Seigneur d'encourager mes frères et sœurs ici présents. Tu n'es pas là Seigneur pour nous faire peur, c'est pas la question, mais tu es là pour nous avertir. Toi qui es celui qui résiste justement aux orgueilleux et qui fait grâce aux humbles. Tu nous donnes l'exemple de résistance. Et je te prie, Seigneur, de donner à mes frères et sœurs, Seigneur, cette force de résistance, cette capacité d'insoumission au monde, d'insoumission au péché et de soumission à toi, Seigneur, toi le Dieu saint, le Dieu aimant, le Dieu juste, le Dieu vrai. Qu'ainsi nous puissions chasser, Seigneur, l'iniquité de nos vies, la confusion, les compromissions. Ô Seigneur, que ta grâce, Seigneur, nous accompagne. Je te prie d'encourager mes frères et sœurs ici présents, Seigneur, et de les fortifier dans la foi. Père, je te le demande au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia.